11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Avec sa voix grave et rauque, il pourrait être le porte-parole de Joey Starr ou de Dark Vador, le seul et unique Michael Quiroga.
Je suis votre père.
Comme Jacques Lang, il aimerait bien se faire offrir des costards, mais il n'en met pas le roi du t-shirt, Ben H.
C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour Anne.
Encore un humoriste qui nous vient du Nord à croire qu'il ne se reproduise qu'entre eux. Il a dans le soleil qu'il aimerait avoir sur sa peau palote, le ch'ti qui donne la ch'touille. J'ai
la ch'touille.
Ça expliquerait tout.
Mais la ch'touille, ça veut dire la chaude pisse. C'est horrible.
En cette journée mondiale contre la censure, elle a décidé de reposter sa photo de profil Facebook, celle où elle est belle au naturel, juste après son accouchement.
Le carnage.
Christine Béroux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Et celle qui est canon, même quand elle tire à boulet rouge sur les hommes politiques, l'explosive Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jérémy Lorca nous parlera d'argent.
Oui.
À 11h30, nous recevrons Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique pour son livre « EHPAD, d'une honte française » paru aux éditions Plon. Michael Quiroga nous expliquera pourquoi il s'inquiète lui aussi pour nos aînés. Et à partir de 11h50, notre invité sera Alain Chamfort, actuellement en tournée dans toute la France et le 19 mars à La Cigale. Ben H reviendra sur ses 50 ans de carrière et Christine Béroux lui fera un quiz « Tout est Chamfort ».
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la censure sur Internet. Est-ce que vous avez déjà été censuré sur Internet ou ailleurs? Vous voudriez vous voir censurer quelqu'un?
Oui, alors moi, dans cette émission, je suis contente d'en parler parce que je me censure énormément, pas parce que j'ai peur d'être trop drôle. Et du coup, je suis obligée d'effacer mon talent pour pas faire de l'ombre aux autres chroniqueurs. Vous appréciez le sacrifice?
C'est sympa, tu le fais bien.
C'est pour ça, en fait.
Oui, c'est voilà. Pour ça.
Mais je trouve que t'as pris trop de marge, peut-être.
Michael.
Ah bah bien sûr, j'ai déjà été censuré. Toute ma vie, j'ai été censuré. Moi, j'ai eu une mère, j'ai eu des profs. Maintenant, j'ai Anne Roum. Et là, je viens de me censurer moi-même.
Alors Jérémy, la journée de la censure, ça vous inspire quoi?
Oui, alors c'est un petit peu moins drôle, mais c'est vrai que je trouve qu'il pourrait y avoir plus de censure parce que bon bah moi j'ai pas mal de commentaires homophobes sur Facebook et sous ma dernière chronique Europe 1, quelqu'un a comparé l'homosexualité à la zoophilie et du coup j'ai envie de répondre, c'est vrai qu'en tant que gay, si un jour j'ai la possibilité de coucher avec Ricky Martin ou un Labrador, oh bah j'hésite. Hein. Les gens sont fous.
Eh bah alors moi je viens juste de censurer là, je viens juste de censurer une image de mon cerveau, Jérémy Lorca et un Labrador. L'enfer. L'enfer.
C'est dégueulasse.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
35 spécialistes en ophtalmologie ont écrit à Emmanuel Macron pour demander un moratoire sur les LBD-40, les fameux lanceurs de balles de défense qui ont causé plusieurs accidents très graves. Entre les LBD qui vous éborgnent et les grenades qui vous arrachent la main, on peut dire que la police sait se faire obéir au doigt et à l'œil. Le président Bouteflika renonce à un cinquième mandat. Pour les élections, les règles sont les mêmes partout. On peut éventuellement faire voter les morts, mais on ne peut pas les élire.
Selon un sondage, 61% des Français disent ne pas connaître François-Xavier Bellamy. Quelle bande d'incultes. Ne pas connaître Jean... Pierre-Marie... Bichule, machin truc, quoi. Oui, bon, bah, moi non plus, je sais pas qui c'est, ça va. Si je vous dis Jean-Pierre Dubonnet, vous savez pas qui c'est? Non. Bah voilà, et bah moi non plus, alors ça va.
Finalement, Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat. Dans un message à la Nation, il a déclaré...
Quelle belle imitation.
Merci.
Zinedine Zidane revient au Real de Madrid à la surprise générale. Ça s'est décidé très vite. Zidane, c'est pas la première fois qu'il prend une décision comme ça, hein, sur un coup de tête.
Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à l'élection présidentielle après de nombreuses manifestations et la grève générale en Algérie. Finalement, Bouteflika.
Internet fête ses 30 ans, alors moi qui l'utilise souvent, je sais quoi lui offrir, un Becherel. Selon les médecins, être toujours en colère serait un signe de dépression. Voilà, en fait, Mélenchon s'est trompé, sa personne n'est pas sacrée, sa personne est déprimée.
Virginie Calmels a pris hier ses fonctions à la tête d'un grand groupe immobilier et fait ainsi ses adieux à la politique. La France perd ainsi une femme qui a fait notamment... si...
Bon bref, Virginie Calmels arrête.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michael Quiroga, Jérémy Lorca, Christine Béroux, toute Ben H et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalès Azur, Thalès Interactive Spa pour deux personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, ouais. Jérémy Lorca.
Oui.
Mickaël Quiroga, le week-end a été bon ?
Il a été.
C'est le moment de notre jeu.
Europe 1, Anne Romanov.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Demain, l'Olympique lyonnais affronte Barcelone en match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Il faudra deviner donc des personnalités sur le thème du sport. Et Mickaël, vous allez nous dire ce qu'on peut gagner aujourd'hui.
À l'occasion de la journée porte ouverte du dimanche 17 mars, tentez de gagner une pause bien-être pour deux personnes, trois jours, trois nuits en Bretagne, dans un des 9 instituts Thalazur Thalassothérapie et Spa en France. C'est à l'hôtel 4 étoiles Les Salines, à l'azur de Carnac, situé à quelques pas de la grande plage, que vous vous relaxerez grâce à une escale détente zen comprenant des soins hydromassants et des modelages très agréables. Rendez-vous sur thalazur.fr. En fait, c'est long, vous voulez que je le fasse.
Rendez-vous sur thalazur.fr.
Ah d'accord, faut prendre une voix,
ouais,
de... D'accord. Rendez-vous sur thalazur.fr.
Vous devriez faire un duo, les deux.
Il a une voix.
Incroyable. Mais toi, tu sais faire la voix sexy. Vous devriez tous les deux faire du téléphone rose.
Voilà, quoi, on dirait.
Ça n'existe plus, le téléphone rose.
Ah bon ?
Bah non.
Oh zut. Oh, j'adorais ça avant.
Mais pourquoi
t'appeler là-dessus ? Quelqu'un peut prévenir Jérémy pour Internet ou pas ?
Mais t'as dû avoir une puberté que je souhaite pas à mon pyrénéen.
Alors, on joue avec Gladys. Bonjour, Gladys.
Bonjour, Anne.
Gladys, vous nous écoutez depuis le début. Pardon, on s'excuse.
Désolée, Gladys.
Non, mais je vous en prie, vous êtes dans votre éléments et vous m'y emmenez.
Super.
En plus, Gladys est militaire, elle a 28 ans, elle est militaire en Bretagne à Plouzané, c'est ça ?
Oh, Plouzané, sans blague, j'étais au collège à Plouzané.
Oh.
J'étais au collège
à Plouzané, mais en fait, moi, j'exerce à Brest. Alors, je suis originaire de La Réunion, en fait.
Ah, ah, vous êtes originaire de La Réunion. Et vous adorez faire des sports extrêmes, le saut en parachute, le saut à l'élastique, c'est ça ?
Oui.
Et militaire, quel genre de militaire ? C'est-à-dire, vous êtes gendarme ?
Ah non, pas du tout, non, militaire, dans l'armée, en fait, dans la marine.
Donc s'il y a la guerre, vous nous sauvez, Gladys.
Ouais, en fait, je pars en première ligne pendant que je joue avec vous, et puis après, je les rejoins.
D'accord. Alors, vous êtes marin, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais vous avez un grade ?
Oui.
C'est quoi ?
Ben, je suis second maître.
Ah.
Second maître.
Oui, ouais. Alors t'énerve pas, Jérémy, c'est un grade de militaire.
C'est pas 50 nuances de guerre.
En fait, une fois qu'on a fait l'école des mousses, on fait nos preuves. Et si on a un bac, on fait l'école de maîtrise.
L'école des mousses.
Mais à Brest...
Ça a l'air chou, ça, Jérémy, l'école des mousses.
L'école des mousses, ouais. En petit uniforme. je leur touche le pompon.
Oh, ça suffit.
J'essaie de relever un peu la personne.
Mais cet homme est un obsédé sexuel, c'est effrayant.
Non, je suis en manque, c'est pas pareil.
Gladys, à Brest, il y a des sous-marins, c'est ça ? Vous vous embarquez sur les sous-marins ?
Ah non, je n'embarque pas. Les sous-marins sont interdits aux femmes.
Ah bon ?
Pourquoi ?
Bah, ils sont enfermés, hein, les gars.
C'est ça. Déjà, entre nous, en étant en mer, en étant en mission 3 mois, 6 mois, au milieu de la mer, on a affaire à des requins.
Ah oui.
Donc, en sous-marin, ça va être compliqué, ouais, je pense.
Ah, quand vous êtes en mission 3 mois, 6 mois, les hommes deviennent des requins ?
Ah ouais, c'est des ouf, ouais.
C'est des ouf.
Ah ben, je vais venir.
Ça te va bien, toi, les sous-marins?
Je vais me faire parachuter dans un bateau en pleine mer. Bon, après, j'ai le mal de mer dans un pneumatique, alors faut pas. Mais... Ah, ouais, d'accord. Et là, donc, c'est dur de résister quand les hommes.
Non, c'est pas du fait. À partir du moment où vous êtes fait respecter, après,
voilà,
tout va bien, quoi.
Ils sont respectueux quand même.
Oui, à partir du moment où vous êtes fait respecter, après voilà, les blagues
sont bourdes. Et si on se fait pas respecter ?
Plutôt, comment on se fait respecter, du coup ?
Mais non, bref,
c'est parce que les mecs savent qu'elle a dit non et qu'elle rigole pas avec ça.
Anne, elle va arriver sur le bateau et dire « Ne me respecte pas !»
Gladys, vous jouez avec qui ?
J'aimerais bien Ben H.
C'est un excellent choix.
Gladys, vous jouez donc avec Ben H. Attention, des sportifs top chrono.
C'est un commentateur sportif qui parle toutes les langues. Mon cher Patrick.
Je passe.
Oh là là, une tenniswoman black américaine numéro 1 mondial depuis 15 ans.
William.
Ouais. Un footballeur argentin tout petit, le meilleur joueur du monde.
Je sais pas.
Un golfeur, le plus grand golfeur de l'histoire. Il a un nom, son nom.
Tiger Woods.
Oui, c'est ça. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France le bus. Il est avec Estelle Denis, la journaliste.
Je passe.
Une tenniswoman française qui est à la retraite, qui était très très forte, qui est devenue coach.
Je passe.
Ouais, bah.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, c'est super méga
nul. C'était très dur. Ah, il est très dur, ouais.
Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous.
Mais vous êtes dans l'armée française, madame.
Non, mais c'est parce que quand elle part sur un bateau, elle n'entend plus parler de rien, c'est
bah
ça.
Ouais. C'est ça. Ouais.
C'était Amélie Mauresmo, la joueur de tennis, Nelson Monfort, le commentateur sportif, Lionel Messi, joueur de foot argentin, et Raymond Domenech, l'entraîneur de l'équipe de France.
Ah ouais, non, j'y étais pas du tout.
Vous y étiez pas. Deux bonnes réponses, c'est mal parti pour la Thalasso, Gladys. Hein. Je veux pas vous désespérer, mais là, c'est mal parti.
Je la ferai dans la salle de bain,
mais la liste 2 est pas beaucoup plus facile.
Ah, la liste 2, elle est pas plus.
Bon, on va voir comment se débrouille Florian.
Ah, si, 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 elle est facile.
Bonjour Florian.
Bonjour madame.
Voilà, vous allez nous
déjà,
lâcher.
Ton carnet,
vous m'appelez mademoiselle, déjà.
Bon, mademoiselle.
Bonjour mademoiselle.
Alors, bonjour alors, mademoiselle.
On le refait. Bonjour Florian.
Bonjour mademoiselle.
Oh, merci. J'adore qu'on m'appelle mademoiselle. Alors, vous m'avez vu au musée Grévin, ma statue.
Ah, voilà, voilà. Je vous ai tenu la main, je vous ai fait la bise, et voilà, quoi. Donc, maintenant, nous sommes proches.
Oh là là. Alors Florian, vous êtes demandeur d'emploi, vous habitez à Clé-Souilly dans le 77, oui. Et vous cherchez, oui, un travail dans le secteur aérien.
Tout à fait.
Vous voudriez faire quoi, steward ou
Steward, j'ai déjà fait. Je travaillais en compagnie aérienne, j'étais en escale au sol. Mmh. Donc voilà, donc pour l'instant, je me remets d'une opération du pied et après, je rechercherai activement dans ce secteur.
Et vous avez une compagne depuis 1993, rencontrée dans un salon du tourisme.
Oui, oui, oui.
Elle est hôtesse de l'air.
Non, elle loue des voitures. On peut. Oui, personne n'est parfait, hein, mais bon, elle loue des voitures. Hein.
Bah, c'est pas c'est bien de louer des voitures.
Oui, oui, ça va, oui.
Oui. Comment elle s'appelle?
Annie.
Annie.
Annie, voilà, donc avec tout ce qui va avec, donc.
Ça veut dire quoi, avec
les enfants, les chiens,
les sucettes
non,
à l'Annie.
La chanson de Gainsbourg, c'est ça. On fait régulièrement, ouais. Donc voilà.
Bah, moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, j'ai quand même pas fait
non,
ça.
Non, vous pouvez, on lui a fait plusieurs fois. Ouais.
La chanson, hein.
La chanson, oui, oui.
Et vous avez des enfants avec Annie?
Oui, oui, j'ai un petit garçon qui a 15 ans.
Mm-hmm. Il est plus très petit quand même, hein?
Non, il est plus très petit. J'ai plus besoin, contrairement à vous, à me cacher dans les toilettes tous les matins.
La légende.
Vous écoutez l'émission, c'est bien.
Oui, j'écoute l'émission, oui, oui. Vous me faites rigoler avec ça.
Tant mieux, ça fait au moins une personne. Florian, vous jouez avec qui?
Qui c'est qui est fort en sport chez
vous? Là, je peux vous faire gagner.
Moi, je peux le faire gagner aussi.
Je pense que je peux vous le faire gagner, celui-là.
Comme vous voulez, Mickaël ou moi?
Allez-y, qui?
Alors, Mickaël, qui c'est qui m'a dit qu'il était fort, hein.
Ouais, c'est parti.
Attention, top chrono.
Alors, c'est le seul tennisman français qui a gagné Roland-Garros. Il est bronzé, comme moi.
Yannick Noah.
Ok. Le meilleur basketteur français qui a été joué aux États-Unis.
Anthony Parker.
Voilà. Une escrimeuse qui est devenue ministre, bronzée aussi, comme moi. C'est pas grave. Le plus grand judoka de tous les temps, bronzé aussi comme moi.
Teddy Riner.
Ok, celui d'avant, pas bronzé comme moi.
Comment il s'appelle? Il était ministre.
Voilà. C'est pas grave. Un pilote de rallye, le meilleur.
Prost.
Non. Un patineur. Un patineur qui aime bien lancer des vannes.
J'ai des trous là.
Ça sent la panique.
Candeloro, il l'a dit. Il a dit Candeloro sur le gong. Il l'a dit sur le gong.
Même sans le gong, même sans Candeloro, on était déjà à trois bonnes réponses.
Du coup, il a dit j'ai des trous. Il aurait peut-être dû jouer avec Jérémy. Du coup, je me dis.
Non.
Ok.
Cache-toi.
Je me cache, madame.
Bravo, Florian.
Oui.
Florian, vous avez gagné à l'occasion de la journée porte ouverte du dimanche 17 mars une pause bien-être pour deux personnes, 3 jours, 3 nuits en Bretagne, dans l'un des 9 instituts Thalazur, Thalassothérapie et Spa en France, l'hôtel 4 étoiles Les Salines Thalazur de Carnac, situé à quelques pas de la Grande Plage. Vous relaxerez grâce à une escale détente zen, comprenant des soins hydromassants, des modelages très agréables. Rendez-vous sur thalazur.fr.
C'est super gentil à vous. Bon, merci beaucoup. Hein.
Merci Gladys. Désolée, vous rejouez avec nous d'ici un mois?
Avec grand plaisir. Et je vais me mettre à la page du coup.
Bah oui, il faut réviser l'actualité là.
Et oui.
Bon, on vous embrasse
merci
Gladys.
Beaucoup.
Continuez à nous écouter.
Salut Gladys.
Au revoir Florian. Bah, profitez
revoir,
bien.
Merci. Et puis continuez comme maintenant. Là, ne changez rien.
Bon bah
on va essayer.
Merci.
On va essayer. Merci beaucoup Florian. Profitez bien de ce séjour de Thalazur. Merci beaucoup.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Christine Béroux, Mickaël Quiroga, Jérémy Lorca, qui nous parlera d'argent.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien, Ben. vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga,
yes.
Ben H, Christine Mérou, Jérémy Lorca.
Oui.
Hier, le ministre de la Culture, Franck Riester, et Stéphane Bern ont présenté la deuxième édition du Loto du Patrimoine. Est-ce que vous allez acheter un ticket? Vous jouez souvent au loto? Vous avez de la chance au jeu, Jérémy?
Oh bah moi, j'ai déjà joué au Morpion le mois dernier et, et croyez-moi, j'avais bien les boules.
Christine?
Alors moi, je déteste les jeux de hasard. Par exemple, le poker, c'est vraiment un truc de mec, le poker. Désolé, mais il n'y a que des hommes pour rester assis pendant des heures à décider de qui a la plus belle paire. Non, Miguel?
Excellent. Non, moi, mon jeu, c'est plutôt les échecs.
Ah bon, vous jouez aux échecs?
Non, je les accumule.
Jérémy Lorca,
oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah bah alors déjà, Anne, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, on a tous acquis une petite notoriété. Hein, la dernière fois, il y a une dame du public qui m'a demandé de lui dédicacer une gaine et ça fait plaisir. Non, alors c'est vrai que dans le métier, comme on travaille avec vous, les gens commencent un tout petit peu à nous connaître et vendredi, il m'arrivait un truc de fou. Vous savez les amis, avant de faire de l'humour, je m'en cache pas, j'ai fait beaucoup de publicité pour gagner ma vie et j'ai arrêté parce que je trouvais pas ça classe de faire des pubs pour de la maillot alors que j'étais sur Europe 1 avec Anne Romanoff et que je voulais faire du cinéma d'auteur. Je voulais être cohérent. Sauf que vendredi, on m'appelle pour un casting, on me dit il y a deux jours de tournage en Espagne, c'est payé 7000 euros. Bon bah, le cinéma d'auteur. Et je me dis, bah ok, je cours. Et là, on m'annonce un truc incroyable. On m'explique que c'est moi la référence. En fait, quand il y a des créatifs qui font un casting pub, en général, ils donnent un brief. Par exemple, profil Jean Dujardin, profil Audrey Lamy. Et bah là, c'était profil Jérémy Lorca. Vous réalisez pas, mais mon ego était regonflé pour 30 ans. Et là, ils me disent, le casting, c'est samedi 11h. Moi, je réponds, bah j'ai pas besoin d'y aller. Ils m'ont trouvé puisque c'est moi le rôle. Ah, oh, si, c'est juste pour qu'ils te rendent compte, pour qu'ils voient comment tu parles, comment tu bouges, etc. Donc, c'est humiliant, mais je me rends au casting pour être moi-même. Et j'ai eu la réponse hier, j'ai pas été pris. C'est-à-dire que les gars m'ont vu en vrai, ils se sont dit, oula, décevant. Donc dans Paris, il y a un mec qui joue mieux Jérémy Lorca que moi. Qui est ce connard? Qu'on le trouve. Je veux ces 10%. Quand on m'a annoncé que j'étais pas pris, j'ai eu envie de crever. Je me suis senti comme une merde, mais toute la journée. Et j'y ai vachement réfléchi. Je me suis mis dans cette situation à cause de l'argent. Et c'est vrai que c'est l'argent qui régit tout, hein, parce que malheureusement, on peut pas payer les gens en bisous. Et en même temps, quand je vois la tête de mon épicier, tant mieux, il y a des herpès qui se perdent. Alors, l'argent, ça crée les inégalités et ça amène les gens à faire n'importe quoi. Ce week-end, les internautes se sont révoltés parce qu'il y a un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Tilian qui va se faire opérer parce qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de marcher. Donc ses parents ont lancé une cagnotte sur internet pour financer ces opérations qui coûtent très cher. Et il y a un supermarché qui a aussi installé une tirelire à la caisse pour que les gens puissent participer. Et quelqu'un, par amour de l'argent ou par besoin, a volé cette tirelire. Ça a été filmé, la vidéo a été vue 1 million de fois, les gens ont été scandalisés. Et samedi soir, dans On n'est pas couché, Marlène Schiappa a été interrogée sur une autre cagnotte, celle qui avait été lancée pour Christophe Detinger. Vous savez, l'ex-boxeur gilet jaune qui avait frappé un policier. Il faut savoir que c'est une cagnotte qui a récolté 116 000 euros en 24 heures. C'était un record. Marlène Schiappa a expliqué qu'il y avait un message à en tirer, c'est que les Français en ont ras-le-bol de payer des redevances, des taxes, des impôts, mais qui sont encore capables de se mobiliser et d'être solidaires. Du coup, je suis allé voir la cagnotte de Tilian, qui a besoin de 50 000 euros. Et on est loin de les avoir atteints. Alors moi j'étais choqué, je me suis dit mais c'est dégueulasse, on récompense plus un gars qui frappe un policier qu'un petit qui a besoin de ça. Alors je sais que je sais bien qu'il y avait un message de révolte derrière tout ça. Mais le même week-end, on a aussi appris que depuis sa mort, Johnny a rapporté 7 millions d'euros à ses héritiers. Bon, on sait toujours pas qui va hériter, mais quand même, ça fait un petit pactole. Et en fait, c'est ça le paradoxe. Il y en a qui ont trop d'argent, d'autres qui en manquent et qui en ont vraiment besoin. Alors c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Mais c'est vrai que quand on y pense, pour l'argent, on peut voler. On peut faire un boulot qu'on déteste. On peut passer à côté de sa vie. On peut s'embrouiller avec des potes. Mais on peut aussi faire des choses bien, aider les gens. En l'occurrence, un petit garçon a retrouvé ses jambes. Alors si ça vous intéresse, la cagnotte est sur Litchi. Elle s'appelle Aidez-moi à marcher. Alors à votre bon cœur et merci à lui.
Merci Jérémy Lorca. Voici les 10 choses à ne jamais dire lors d'un entretien d'embauche.
Pardon ? Je suis en retard. Oui, c'est possible. Ah non, c'est pas un défaut. Chez moi, c'est une habitude. Mais en fin de journée, je me rattrape. Je suis toujours en avance pour partir. Comment ça, je peux partir ? Déjà ?
Et alors, concrètement, il faut travailler combien de temps pour avoir droit aux acédiques, déjà ?
Au niveau expérience ? Oui, j'en ai énormément. Bah, j'ai eu des expériences malheureuses en amour, j'ai connu des sacrées expériences avec la drogue, j'ai tenté des expériences culinaires douteuses, et j'ai une solide expérience des soirées arrosées qui se finissent tard.
Oui, je suis très intéressée par ce poste, mais alors il faudrait que j'aie une réponse rapide, mais genre très 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 rapide, parce que je suis enceinte de 8 mois et demi.
Une phrase à ne jamais dire dans un entretien d'embauche, c'est « Bonjour, je suis libre de suite, je m'appelle Alexandre Benalla ».
Si je parle anglais, oh bah yes, very bueno, it's écrit on my CV. De toute façon, si, I'm totally bilingue, I apprend that English with Anne Romanoff, so I'm the best.
Comment ça, vous ne pensiez pas que j'étais noir? Ah bah oui, on a des surprises dans la vie. Par exemple, moi, je pensais pas que vous étiez si con, comme quoi.
si je maîtrise bien les outils informatiques, YouPorn ça compte. Mon ancien employeur, je l'ai envoyé au prud'homme. Mon employeur d'avant, je l'ai également envoyé au prud'homme. Mon employeur encore d'avant aussi, alors je commence quand ?
Ouais, j'ai toujours rêvé de devenir pompier. Ah, dans la vie, pas grand chose ne me fait peur. Et ah, sous votre bureau, une araignée !
Ok, on fait comme ça. Par contre, en cas de réponse positive, ne m'appelez pas avant midi, la grasse mat, c'est sacré chez moi.
Europe.
Vous allez vous faire embaucher. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Mickaël qui regarde, yes. Christine Mérou-Benache et notre invitée Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique pour son livre EHPAD, une honte française, par aux éditions Plon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Et notre invitée, qui est une femme passionnée, militante et combative. Sa grand-mère a inspiré son engagement et sa vocation d'aide médico-psychologique dans un EHPAD, dont son expérience, elle a tiré un livre, EHPAD, une honte française, où elle dévoile le quotidien touchant, dur et parfois terrible de nos aînés. Applaudissez Anne-Sophie Pelletier. Ouais. Bonjour Anne-Sophie Pelletier.
Bonjour.
Alors vous avez été aide-soignante en EHPAD ?
Oui.
Et puis ça a été très difficile comme expérience ? Pendant combien de temps ?
Alors j'ai été aide médico-psychologique pendant 3 mois. Et j'ai fait juste avant 4 ans d'aide à domicile. Et je pensais bêtement à la fleur au fusil que de travailler dans un EHPAD, ce serait plus simple. Et finalement je me suis rendu compte que l'humain était sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Puisque je travaillais pour un EHPAD privé à but lucratif. Et au-dessus ce ne sont pas des philanthropes mais des actionnaires. Et avec mes collègues nous avons décidé de ne plus sacrifier cet humain.
Vous avez fait une grève.
117 jours.
Alors, vous parlez du quotidien dans votre livre qui s'appelle donc EHPAD, une honte française, maltraitance, le témoignage choc d'une soignante. Vous décrivez plusieurs situations de maltraitance oui. des personnes âgées, mais même quand vous êtes aide à domicile.
Oui.
Parce que vous avez été finalement aide ménagère à domicile.
Alors, j'ai été aide ménagère et je veux rendre hommage à toutes ces femmes qui font ce métier par dévouement, parce que souvent ce sont des temps partiels contraints, ce sont des salaires qui ne sont même pas au SMIC, et c'est souvent des métiers qui sont peu reconnus, alors que les aides à domicile sont parfois des présences essentielles dans l'accompagnement au quotidien des personnes âgées. Et puis après, oui, en EHPAD, ça a été une autre difficulté, mais qui était finalement dans la continuité de ce que j'avais connu en domicile. Et puis cette maltraitance institutionnelle qui était déjà présente aussi bien au domicile qu'en institut.
Alors vous racontez que quand vous étiez donc aide ménagère à domicile, vous avez chaque fois vous avez perdu des clients, on va dire des.
Oui.
Et à chaque fois, vous allez aux enterrements.
Oui, sauf un.
Oui.
Comme je l'écris dans le livre, sauf un. Et ce chapitre s'appelle « J'ai honte » parce que je ne me souviens même plus du nom de mon allocataire. Oui. Et oui, pour faire mon deuil, j'ai besoin d'aller aux enterrements.
Donc vous avez fait combien d'enterrements ? C'était incroyable.
17.
17 enterrements en combien de temps ?
4 ans.
Ça, c'est difficile quand même, non ?
Ben, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de suivi non plus psychologique des équipes.
Ça vous attachez à une personne âgée, elle disparaît et...
Même si, comme je l'écris, on nous a toujours dit « ne vous attachez pas, ne vous attachez pas ». C'est pas possible de pas s'attacher à quelqu'un quand vous faites partie de son quotidien pendant longtemps. Et puis, « ne vous attachez pas », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne doit plus, on doit commencer, nous aussi, à mettre de l'inhumain dans les soins. Et ça, c'est juste pas possible.
Alors, vous racontez aussi qu'il y a des soignants, évidemment, qui sont très dévoués, et puis d'autres qui en font le minimum. Vous racontez notamment une scène avec un vieux monsieur. Il y a écrit dans le cahier de liaison « laver, doucher, changer ». Et vous, en fait, il a les mêmes vêtements. Et...
Alors ça, c'est au domicile, cette ouais. histoire. Et oui, donc j'arrive le matin. J'avais déjà fait une intervention chez ce vieux monsieur atteint de maladie d'Alzheimer. La veille, et je vois sur le carnet de liaison qu'il est douché, lavé, douché, rasé, enfin, bah, tout est fait. Et je regarde ce monsieur et je me dis, on a un problème. Parce qu'il a toujours autant de barbe par rapport à hier, les vêtements sont les mêmes, il ne sent pas vraiment la rose, donc je ne comprends pas, quoi. J'écris, comme je l'écris dans le livre, je vais voir si le gant de toilette est mouillé ou s'il y a une serviette de toilette mouillée, et je mets dans le cahier de liaison que l'eau devait être sèche parce que tout est sec et en fait il a jamais été douché ce jour-là, ni même rasé, ni même c'est compliqué.
C'est compliqué aussi de voir toutes ces choses et de pouvoir rien faire en fait.
Ah mais non, on est alors ça c'est pouvoir rien faire, si on peut toujours faire et puis même si on se prend parfois quelques orages hein, parce que il y a quand même une sectorisation entre soignants donc oui, ça chacun, je l'ai remarqué,
chacun son rôle.
Alors qu'on est tous là pour le même but, c'est-à-dire le bien-être d'une personne âgée. Mais le plus difficile, c'est de voir qu'on est impuissant, et particulièrement au domicile, par rapport aux conseils départementaux, où je l'écris dans le bouquin. Juan, moi, c'était mon urgence, le fait d'avoir un lit médicalisé pour qu'il ait une fin de vie moins douloureuse. Mais ce n'était pas une urgence pour un conseil départemental qui a mis trop de temps à décider qu'effectivement, il pouvait lui prendre en charge un lit médicalisé.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Anne-Sophie Pelletier, qui veut nous parler de son livre et pas d'une onde française. Alors c'est pas vraiment un livre d'humour, on est d'accord, mais c'est important
c'est
de parler de ces choses-là, ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorquet, notre invité Anne-Sophie Pelletier, auteur du livre « Et pas d'une honte française » aux éditions Plon. Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Anne-Sophie Pelletier.
Voilà, oui, ben justement, oui, Anne, là, je voudrais parler un petit peu, parce que moi, je m'inquiète pour nos aînés. Alors, certains vont me dire que j'ai déjà parlé des anciens la semaine dernière, hein, ce à quoi je répondrai poliment, je fais ce que je veux.
Si j'ai c'est comme tu t'habilles comme tu veux, parce que si tu nous demandais notre avis...
Non, là, oui, vous avez compris, je m'en fous. Alors,
et t'as quel âge?
Donc, je vais essayer de faire ma chronique. Et donc, si j'ai décidé de vous en reparler, en tout cas, c'est à cause, ou plutôt grâce au livre d'Anne-Sophie Pelletier, qui, moi, m'a alarmé, hein, pour faire court, dans les EHPAD, on ne respecte pas nos anciens, on sacrifie leur bien-être, vous le disiez, sur l'autel de la rentabilité. Parce qu'avec les anciens, il y a trois domaines qui rapportent, ce sont les casinos, les EHPAD et les montescaliers. Alors, autant les montescaliers, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, à part que leur prix vous incite plutôt à vivre au rez-de-chaussée. Autant les EHPAD, il y a matière, hein, pas assez de personnel, donc pas assez de temps pour s'occuper de chacun. Un personnel qui, malgré parfois une envie de bien faire, bah, passe moins de temps à faire la toilette d'un résident qu'une stripteaseuse pour exécuter un lap dance. Donc tiens, d'ailleurs, un petit conseil à tous les anciens qui se sentent un petit peu laissés, abandonnés par leurs enfants et leurs familles. Si vous voulez qu'ils vous appellent tous les jours, empruntez-leur du fric. Non, croyez-moi, s'ils ne vous appellent pas parce qu'ils vous aiment, ils appelleront parce qu'ils aiment leurs sous. Ils ne vont plus vous lâcher la grappe, vos gamins. Il n'y a pas assez de respect pour les aînés, mais en revanche, certains ont parfois de l'intérêt, hein, pour les vieux, pour peu qu'il y ait un peu de patrimoine. Non, moi je vous le dis, hein, les anciens ne sont pas dupes. Hein, ils le savent, si vous êtes là pour les sous. Cette manie que vous allez de prendre rendez-vous chez le notaire à chaque canicule, ils le voient, ils ne sont pas dupes. Hein. Donc tout ça, moi, ça m'a inquiété parce que comme tout le monde, hein, comme vous, comme nous tous, on vieillit. Et un jour ou l'autre, eh ben, après la lecture du livre, moi j'ai frémi quoi, à l'idée de ce qui nous attendait si on n'y changeait rien. J'étais en panique, les mains moites, une envie de hurler, vous voyez, un peu comme quand on a annoncé à Anne Romanoff qu'il n'y avait plus de Kinder Bueno dans le distributeur. Ou hurler, comme quand Jérémy Lorca arrive avec un nouveau pull, en pleurant qu'il a toujours pas de mec, alors qu'en général, ceci explique cela. Les anciens, il y en a qui ne vont pas les voir parce qu'ils trouvent que c'est déprimant, parce que les vieux, ça parle que de maladie. Bon, parfois, c'est pas faux. Mais de quoi vous voulez qu'ils vous parlent? Du dernier album de M. Pokora, du dernier clash de Booba? Non, ils vous parlent de ce qu'ils connaissent, ou au pire, de ce dont ils se rappellent. Voilà, on traite mal nos anciens, on les maltraite, en fait. Il y a un proverbe africain qui dit « Un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle ». Bon, l'inverse est vrai aussi, si le vieux n'a pas le temps de sortir. Mais, ce que ça nous dit, c'est qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre. Malheureusement, même si on a conscience qu'ils recèlent des trésors d'expérience, on n'écoute pas les anciens. Et c'est dommage parce que ce soit la guerre, que ce soit le mariage, que ce soit regarder TF1, bref, quelle que soit la connerie que vous apprêtiez à faire, ils l'ont faite avant vous. Donc, la plupart de nos parents ont essayé de faire en sorte que l'on vive bien. Alors, il serait peut-être temps de penser à leur rendre l'appareil. Alors, quand je dis l'appareil, c'est pas dentaire. Je veux dire la réciproque. Hein. Alors, donnons honneur la place qu'ils méritent. Écoutons-les, parce que si on l'avait fait, ben, il y a longtemps qu'il y aurait sans doute moins de guerre, moins de misère, moins de cons. Et surtout, il n'y aurait sans doute plus aucun EHPAD à but lucratif.
Vous racontez aussi quelque chose d'assez émouvant. Un monsieur qui a Alzheimer, et vous dites que vous allez passer la soirée de Noël avec lui.
Oui.
Et en fait, il adore. Oui. Et vous dites, il s'en rappellera pas. Et en fait, il s'en souvient.
C'est tout à fait ça. Alors en fait, oui, c'est un monsieur. Et puis, il est vraiment tout seul. C'est quelqu'un qui est sous tutelle. Pas de famille. Et puis, j'embarque époux et enfants. Et je dis, on va aller passer le réveillon de Noël avec lui.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, votre mari et vos enfants ?
Ok.
Ils sont gentils.
Ok. Oh, bah, ils me connaissent, hein, au bout d'un moment. Ils savent. Hein. Et puis les chiens ne font pas des chats. Ouais. Donc ils se sont dit, ok. Et on y va, on apporte tout. Et puis je me dis, bon, bah, c'est un moment qu'on a passé avec lui, mais demain, bon, il ne s'en souviendra pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Et finalement, j'y retourne après et encore après. Et il me dit, bon, tu te souviens, on avait bien rigolé quand même avec les gosses. On avait fait des crêpes ou des gaufres, hein, tu te souviens. Bon, on n'avait pas fait de crêpes ou de gaufres, mais ils se souvenaient qu'on était venus et qu'on était avec les enfants. Ouais. Donc, ils n'oublient pas toujours tout. Ils n'oublient pas toujours tout. Et comme cette dame, voilà, je voulais continuer, ou pianiste, et on lui a enlevé son piano de sa chambre. Et pareil, on dit tout le temps, maladie d'Alzheimer, elle ne se souvient de rien. Et le jour, parce qu'il y a quand même des moments de grâce dans ce livre, faut le dire, le jour où j'ai un peu de temps de faire mon métier d'aide médico-psie, eh bien, j'ai la chance d'avoir appris le piano. Donc je mets le piano, je la mets à côté d'elle, et elle prend les partitions, et je lui dis, qu'est-ce qu'on joue? Et elle me répond, ah ça, je ne sais plus ce que c'était. Et je lui fais un peu compliqué, elle me dit oui. Et en fait, avant même que je commence à jouer le morceau, elle repose la partition et elle joue. Elle joue la main droite. Donc la musique est vraiment un langage universel qu'on n'oublie pas.
Il vous racontait une histoire assez terrible aussi d'une dame qui n'a plus d'argent pour payer la maison.
Oui, le concours de tricot.
Ouais, et on veut la faire partir. Elle ne veut pas partir parce qu'elle a des amis. Elle est très heureuse dans cette maison de retraite. Et on lui fait croire qu'il y a un concours de tricot. Racontez.
Oui. Alors en fait, cette dame est là depuis quelques années. Et puis, elle n'a plus d'argent pour payer la maison de retraite. Et donc, une première fois, on lui dit, bah, écoutez, il va falloir partir parce que vous n'avez plus les moyens. Puis, nos personnes âgées n'aspirent qu'à des repères et de la tranquillité quand ils sont âgés. Hein. Donc, ils aimeraient finir leur jour tranquillement et de façon apaisée. Donc, cette dame dit, bah, non, pas du tout. Moi, je connais qu'ici. Et elle pousse même au fait de dire, si c'est ça, je fais une fugue ou je vais me foutre en l'air. Enfin, ça va loin, quoi. Vraiment, ça va loin. Et donc, il ne trouve rien de mieux que de lui dire, parce qu'elle adorait tricoter, qu'elle part faire un concours de tricot dans un autre établissement. Alors, comme elle aime tricoter et qu'elle a besoin de cette valorisation d'elle-même, elle est toute fière et toute contente de partir à un concours de tricot. Et en fait, elle ne part pas dans un concours de tricot, elle part dans un autre établissement avec 3 pelotes et 2 culottes, quoi. Et elle ne reviendra jamais. Quand on est locataire, c'est ce que j'écris, on a des droits avant d'être foutu dehors. Il y a la justice qui passe et on a un avis d'expulsion. Là, il n'y en a pas. La justice ne passe pas pour faire valoir leurs droits. Et c'est ça aussi que je dénonce.
Est-ce que vous avez été reçue par des politiques, Anne-Sophie Pelletier ?
Alors, j'avais débattu contre Madame Buzyn à la fin de la grève. Depuis, je ne l'ai plus revue. Et je pense peut-être que je vais lui envoyer mon livre. Parce que non, reçu par aucun politique. Aucun.
Ce serait bien quand même, non ?
Surtout qu'il y a la loi dépendance qui devrait arriver là au deuxième semestre. Si on fait un peu le calcul de ce qu'on nous annonce, pour prorata du nombre de personnes âgées de soignants, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Ça suffira pas. Ça suffira pas.
Eh ben, on va demander à Agnès Buzyn de vous recevoir. Merci Anne-Sophie Pelletier.
Mais merci à vous.
On rappelle votre livre EHPAD, une honte française aux éditions Plon. Un livre à acheter. Pas drôle, mais très émouvant. Et puis, il y a beaucoup de tendresse dans ce livre aussi.
Oui, oui,
beaucoup de tendresse. Merci à vous, Anne-Sophie.
Mais merci à vous.
Et pas d'une honte française aux éditions Plon. On se retrouve dans quelques instants. C'est Alain Chamfort qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Midi 30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Benache, Christine Béroux, Jérémy Lorca et notre invité qui a marqué nos vies, car on a tous en nous quelque chose de Manu Reva, découvert par Claude François, redécouvert par Serge Gainsbourg. Sa vie est un film où se côtoient tous les plus grands noms de la musique française. Chanteur, compositeur, mais aussi producteur, il fête cette année ses 50 ans de carrière, plus inspiré que jamais. Aujourd'hui, il nous scande que tout est pop et le chantera le 19 mars à La Cigale. Le beau et mélancolique Alain Chamfort est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour Alain Chamfort.
Bonjour Anne.
Alors, vous êtes en tournée jusqu'en septembre avec votre nouvel album, Le Désordre des Choses. Pourquoi ce titre, Le Désordre des Choses? Vous avez une fille adolescente, vous avez fouillé dans mon sac à main. Que vous êtes un homme bien rangé, c'est quoi?
Oui, c'est le désordre de nos vies, hein, qui est produit par le désordre du monde en général. Donc voilà, on se retrouve un petit peu sous ces espèces d'influences-là et on a du mal à se repérer soi-même et à mettre de l'ordre dans son esprit. Quoi, voilà.
Alors cet album est le fruit d'une collaboration avec le parolier Pierre-Dominique Burgot. Oui. Pourquoi l'avoir choisi, lui?
Parce que déjà,
il a écrit Le Soldat Rose, c'est
ça ? Il avait écrit Le Soldat Rose, mais on avait aussi écrit un album sur la vie d'Yves Saint-Laurent en 2010, je crois. Et moi, mon auteur titré, qui est Jacques Duval, avec lequel j'ai fait une douzaine d'albums, c'est au moins pendant une trentaine d'années, et il avait envie de prendre un peu de recul par rapport à l'écriture, donc j'avais mon joker, qui était Pierre-Dominique Burgot. Et je suis ravi parce que c'est un peu différent de ce qu'écrit Jacques. C'est des textes un peu plus... existentiel, un peu plus frontal, comme ça, frontaux, pardon.
Vous dites que vous n'avez jamais écrit de texte, mais c'est pas terrible ce que vous écriviez. Puis que vous aviez comme parolier Gainsbourg et Jacques Duval, c'était pas la peine. Ils vous ont pas encouragé à écrire non plus.
C'est vrai, c'est un peu dommage finalement. Enfin, c'est un peu, je me suis reposé sur eux. Comme j'ai eu la chance de rencontrer des bons auteurs tout de suite, j'ai un peu renoncé. Puis je trouvais que le produit de ce que j'écrivais était un peu scolaire, quoi, par rapport à des gens qui sont aussi talentueux. Donc ça m'a pas encouragé à poursuivre les...
Donc on vous donne un texte et vous mettez de la musique dessus. Est-ce que vous pourriez...
Ou l'inverse.
Et pourriez par exemple composer sur un discours d'Emmanuel Macron. C'est notre projet, mis en musique par Alain Chamfort. Ça donnerait quoi? Ah, mais vous l'avez déjà fait, c'est notre projet. C'est quand Manu Reva. Alors... Alain Chamfort, ouais. cette chanson a été écrite par Gainsbourg. Et au départ, ça s'appelait Adieu California, c'est ça?
Oui, il y a une première version. Je n'étais pas satisfait du tout. Mais comme j'avais demandé à plusieurs auteurs, parce qu'on avait fait un premier album avec Serge Gainsbourg qui s'appelait Rock'n'Roll, sur lequel il avait fait l'intégralité des textes. Et cet album n'a pas marché. Donc, quand il s'agit de poursuivre notre collaboration, il freinait un peu des deux pieds, comme ça. Et donc, il a accepté de faire quelques chansons de l'album futur, en tout cas j'étais occupé à travailler. Et dans cet album, il y avait cette musique et je l'avais proposé à d'autres auteurs puisque Serge ne voulait plus, au bout de 2-3 titres qu'il avait fait, il n'avait plus envie de continuer. Donc, et puis finalement, j'étais très, très déçu par les propositions de texte qu'on me faisait sur cette musique. Donc j'ai demandé à Serge, j'ai un peu insisté, et puis il a écrit « Adieu California ». C'était le meilleur des textes qu'on m'avait proposé, donc j'ai accepté de le chanter, mais en sachant qu'on passait un peu à côté, quoi. Que c'était la musique n'était pas valorisée comme elle aurait pu l'être avec un meilleur texte. Donc j'étais un peu, je faisais la grise mine, j'ai quand même enregistré le titre, mais je lâchais pas Serge. Je disais, écoute, si vraiment tu peux essayer de me secouer un peu et essayer de trouver une autre idée, je pense que ça en vaut le coup. Et puis, le hasard a fait qu'il a rencontré des skippers qui partaient pour une traversée de l'Atlantique. Et pendant ce dîner, a été évoquée la disparition d'Alain Colas et son bateau Manu Reva. Comme Serge réagissait sur les mots, ce mot l'inspirait. Puis il a fredonné sur ma musique. C'était après tout, Chamfort, il me fait chier depuis un petit moment là, avec son histoire de texte. Je lui proposais ça. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec un nouveau texte et qui là valorisait vraiment la musique. Et je ressentais, comme ça je savais qu'on avait une chanson réussie. Alors après, est-ce qu'elle allait plaire aux gens?
Ah oui, vous avez la subir pendant 30 ans.
Oui, ouais, exactement. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Alain Chamfort, venu parler de son dernier album Le Désordre des Choses et de son concert à la Cigale le 19 mars. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël qui regarde, Ben H, Christine Mérou, Jérémy Lorca et notre invité Alain Chamfort, venu nous parler de son dernier album Le Désordre des Choses et de son concert le 19 mars à la Cigale à Paris. Alors Alain Chamfort, au bout de 50 ans de carrière, on peut encore parler d'album de la maturité?
Il est temps,
c'est ça qu'on demande, est-ce que c'est votre album de la maturité?
J'espère que ça... chaque album est un album de la maturité. J'ai toujours essayé d'engager mes nouveaux albums en respectant ce que je devenais, ce que... Voilà,
un artiste n'est pas toujours mature, il peut être immature. Hein. Ah, par exemple, Francky Vincent, il n'a pas vraiment d'album de la maturité. Ou par exemple, les Kids United sortiront peut-être un jour un album de la puberté.
Oui, enfin, écoutez, voilà, moi j'espère en tant que mes albums ont été assez représentatifs de ce que je devenais au fur et à mesure de ce que, des enregistrements. Quoi, voilà.
Alain Chamfort, votre vrai nom, c'est Alain Logovic. On peut le dire, on peut pas, parce que je viens de le dire. Pourquoi avoir changé, ça sonnait trop breton. Dans l'Ouel Nora n'avait pas encore mis les consonances en hic à la mode. Et c'est Claude François qui a trouvé votre nom d'artiste.
Oui, c'est lui qui était un peu opposé à l'idée que... Parce que mon nom, Logovic, sonne vraiment mes origines, quoi. C'est-à-dire que c'est très, très breton. Et il croyait que ça pouvait être préjudiciable. Donc il m'a dit, il vaut mieux une espèce de nom qui soit un peu générique comme ça, quand on ne sache pas trop d'où il provient.
Alors Claude François vous a produit, et en même temps vous racontez qu'il était un petit peu jaloux de vous, et qu'une fois il vous a éteint l'électricité pendant un concert parce que vous avez plus de succès que lui.
Oui, c'est arrivé. C'est-à-dire
je fais ça
avait...
à mes chroniqueurs.
Il faut dire que Claude François, l'électricité, c'est pas... il partait joli. Pas gagnant, quoi.
Oui, à la fois c'était un peu le paradoxe parce qu'il me produisait et puis en même temps il avait créé une créature qu'il avait l'impression que je pouvais lui porter préjudice, je sais pas trop, enfin, il me considérait à un moment donné comme un concurrent.
À 16 ans, Alain Chamfort, en 65, ma date de naissance, vous montez votre premier groupe, les Mods, mais il y a aussi les Dreamers, les Murators, les Shakers, et toutes ces groupes s'enchaînent très vite, parfois vous êtes pianiste dans deux groupes en même temps, c'est la grande mode, tous les musiciens voulaient être Beatles.
Oui, c'était la mode de cette époque-là.
Donc Alain Chamfort, vous rencontrez Jacques Dutronc à 17 ans, qui vous embauche donc pour jouer de l'orgue.
Oui, et du piano.
En fait, il aurait une période chant grégorien qui nous aurait échappé. Et vous allez accompagner Jacques Dutronc dans tous ses excès pendant 2 ans. Alors j'imagine, là, 17 ans, Jacques Dutronc, 19 ans, c'était important de boire un verre d'eau entre deux triples whisky, c'est ça?
Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, d'un seul coup... Il m'a entraîné dans cette espèce de vie complètement dingue parce que je sortais de chez mes parents. Moi, j'avais une petite vie très simple. Et donc, d'un seul coup, ils étaient tous de 3-4 ans, 4-5 ans, même plus que moi. J'étais le Benjamin de l'équipe. Et donc, ils m'ont initié, quoi.
À tout.
Dire.
À
tout.
Femmes, absolument. Sexe, bah oui, à
tout.
Oui,
oui. Bah oui, j'étais tout jeune, quoi. Donc,
mais à quel moment vous avez parlé de musique avec eux?
Non, parce que c'était amusant parce que Jacques, il était assez timide, il avait besoin d'être entouré toujours de son équipe. Donc, il nous faisait partager. Il allait faire une interview de radio, il nous emmenait avec lui, il faisait une photo, il nous emmenait avec lui. Donc, on avait accès aux coulisses comme
c'était ça. C'était un parasite, en fait.
On était très parasite, oui, mais il avait besoin de ça, il avait besoin de nous. C'est lui qui nous entraînait, quoi. Donc, on vivait comme une petite star, comme ça, chacun à un autre niveau, mais sans avoir les inconvénients, quoi.
Et alors après, à 19 ans, vous quittez Jacques Dutronc.
Oui, enfin, c'est lui qui m'a
demandé de partir. Pourquoi?
Parce que j'avais un projet de disque. Dick Rivers qui m'avait proposé de faire un 45
tours. Vous avez quitté Jacques Dutronc pour Dick Rivers?
Non, j'ai pas quitté Jacques, c'est lui qui m'a proposé. D'accord. De sortir gentiment, parce que comme j'avais un projet personnel, il pensait que ça me préoccuperait peut-être, que je serais moins disponible pour lui, voilà, ça arrive entre artistes comme ça.
Et là, vous êtes toujours amis avec Jacques Dutronc?
Oui, oui, oui. Enfin, on se voit beaucoup moins, mais il y a eu un petit documentaire qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps, qui n'est toujours pas diffusé. Et il a été approché pour témoigner. Et il a été très gentil. Parce que, il est très sympa. Ouais.
Non, mais c'est incroyable, quoi. Vous avez donc Dutronc, après Dick Rivers, après Claude François et après Gainsbourg. Vous traversez l'histoire de la musique française. Vous êtes un peu le Forrest Gump des yéyés, Alain Chamfort.
Ben écoutez, c'est le hasard de la vie. Moi, j'avais pas un carnet d'adresses à l'époque.
Non, mais vous tombez sur les bonnes personnes quand même.
Mais alors Gainsbourg, je suis allé vers lui.
Oui. Vous dites qu'il n'était pas dans une bonne période quand vous l'aviez vu parce qu'il avait plus de succès, c'est ça?
Il n'était pas dans le haut de la vague, quoi. C'est sûr. Il chantait La Micaouette, par exemple. Oui, c'était pas.
La Micaouette, c'est un tube aussi, non?
Ouais, mais enfin, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Donc, il avait une espèce de. Il était content qu'un type de mon âge, que j'étais plus âgé que plus âgé, j'avais une vingtaine d'années moins que lui, et qu'un type de ma génération,
il vienne le voir
pour lui proposer de collaborer. Oui, oui.
Et alors, Manu Reva s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Votre vie a changé ce jour-là? Il y a eu un avant-après? Ou ça vous fatigue de cette chanson? Vous la supportez plus maintenant?
Non, je l'aime beaucoup. Écoutez, en plus, ça fait tellement plaisir aux gens. Voilà, que ça fait partie des choses qu'il faut savoir apprécier.
C'est vrai que c'est quand même un tube sur l'histoire d'un bateau qui coule.
Oui,
et ça fait quoi de réussir grâce à un naufrage? Parce qu'en même temps, il y a Céline Dion qui est devenue une star avec Titanic.
C'est vrai.
Là, il faudrait écrire une chanson sur le Costa Concordia ou sur le Parti Socialiste.
Écoutez, pour être franc, quand il m'a proposé ce thème de chanson, j'étais un peu inquiet parce que je me disais c'est quand même étrange d'aller de chanter plus sur une chanson rythmée, une chanson qui évoque comme ça un drame. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, ce sera pas morbide, ce sera un petit hommage, au contraire. Et voilà, et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fini. Quoi, oui.
Ça vous fait 30 ans de droit d'auteur.
Bah oui.
Alors, Alain Chanfant, vous avez quand même fait des choses incroyables. Vous êtes allé dans une boîte échangiste avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
Oh là là.
Oh là là.
Jérémy vient de se réveiller.
Non, mais ils n'ont rien fait. Hein,
c'était
juste pour voir.
C'était pour voir, comment les gens allaient réagir. Quoi. C'est vrai, quand ils voyaient Jane Birkin, ça chauffait un peu. On voyait les gens qui commençaient à avoir les veines sur les fronts. Et puis finalement, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on est ressorti et tout le monde s'est calmé. Quoi.
Alain Chanfort, vous êtes deux fois grand-père. Quel papy vous êtes? Un papy qui sait saper papy, un papy qui fait de la résistance, un papy qui raconte l'histoire de la fois où Claude François lui a coupé l'électricité sur scène.
Un papy très éloigné parce que mes petits-enfants vivent en Australie. Donc on se voit principalement à travers écran. Et puis sinon, une fois par an, dans le meilleur des cas. Donc c'est un peu particulier. Mais bon, c'est les papys modernes. Quoi, je dirais.
Nicolas de Chanfort écrivait « La plus perdue des journées, c'est celle où on a parlé. » Moi, je dirais que la plus perdue des journées, c'est celle où on n'a pas écouté Alain Chanfort. Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Vous êtes mignonne, merci beaucoup.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Alain Chanfort, venu nous parler de son dernier album, Le Désordre des Choses, et qui sera en concert à Paris le 19 mars à La Cigale.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux qui est complètement vient lui faire de la réanimation.
Par Alain Chanfort.
Je sais pas, est-ce qu'Alain Chanfort est omnubilé par Christine Béroux? Un tout petit peu.
Un petit peu, oui, bien
d'accord,
sûr.
Merci, c'est gentil.
Et Alain Chanfort qui est là.
Mais je comprends, hein, vous avez l'Atlas.
Ah, écoutez, je sais pas, j'ai fait ce que je peux. Hein.
Non, mais lui parle pas, tu vois bien qu'il est gêné. Là.
Moi aussi, j'étais gêné.
Je présente Ben H, je sais pas s'il a la classe, mais ouais. Il vous a préparé quelque
moi
chose
plus,
à un Chanfort.
C'est un honneur de vous rencontrer, hein, tout d'abord, bah, parce que bah, déjà, moi, la musique, bah, c'est un petit peu mon truc. J'ai ce qu'on appelle dans le milieu une voix, ce que Nico s'appelle The Voice. Je me souviens, tout jeune, déjà, sur mon bulletin scolaire, dans la case musique, la prof marquait systématiquement flûte nulle. Percussion moyen, chant fort. Voilà, on peut constater que j'ai le même niveau en flûte qu'en jeu de mots. Mais ce midi, je n'aurai pas la prétention de me comparer à notre invité Alain Chanfort. Je vous respecte beaucoup trop et pour plusieurs raisons. La première, bah, c'est parce que déjà vous êtes un confrère et là je ne parle plus de chansons, mais je me suis laissé dire qu'Alain Chanfort au grand bal des séducteurs, c'était pas le dernier à venir danser. En lisant votre bio, en cherchant des images, des interviews, je me suis dit tout de suite, lui, sur l'autoroute de l'amour, il a connu pas mal d'air de repos. Vous le reconnaissez vous-même, hein, avec un goût prononcé pour les femmes plus jeunes, hein, l'orientation dite du Yann Moix, et je l'ai repéré tout de suite en vous voyant entrer dans le studio. Hein. Rien n'a changé, l'œil rieur et nostalgique à la fois, le sourire timide au coin des lèvres, le cheveu poivre et sel, à voir comment les femmes du public vous regardaient, vous êtes à deux doigts de faire une pub What else? Mais voilà, je suis en forme, vous vous défendez de cette image et dites non, c'est toujours les autres qui m'ont séduit. Phrase de séducteur typique, celui qui fait genre de ne pas y toucher mais qui finit presque en plan A3 avec Gainsbourg et Lio dans une chambre d'hôtel à Los Angeles. Histoire vraie. Mais si vous êtes avec nous, ce n'est pas pour parler de cet organe, mais de l'autre. Car par-delà le French Lover, il y a le musicien, et pas des moindres. Hein. Vous êtes de ces artistes appartenant au club très fermé des 50 ans de carrière. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça force le respect, Alain Chanfort. Hein. Trois générations de Français vous connaissent, vous suivent et vous chantent. C'est incroyable, 50 ans de carrière. Beaucoup de stars ne travaillent pas si longtemps. Prenez John Lennon. Bah, lui, il a clairement arrêté avant d'avoir tous ses trimestres. Au contraire, Maître Gims, souhaitons-lui une bonne retraite anticipée. 50 ans de carrière et de rencontres, notamment celles qui ont fait de vos débuts et qui se nomment Jacques Dutronc, Claude François ou Serge Gainsbourg. Avec Dutronc, vous découvrez la vie de tournée, l'alcool et les femmes. Avec Loclo, vous découvrez que vous êtes interprète et pas seulement musicien. Et avec Serge Gainsbourg, vous découvrez le succès avec l'énorme tube Manureva qu'il vous écrit. Et les années passent et comme vous l'avez si bien dit, eh bien c'est le temps qui court. Court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux parce que le temps qui court, change les plaisirs. Pourtant, le vôtre n'a pas changé. Chanter des jolies chansons et faire des concerts. J'ai même cru comprendre, cher Alain Chanfort, c'est une rumeur, que votre dernier album a été diffusé pendant le Conseil des ministres. La rumeur raconte que tout le gouvernement l'écouta, Édouard Philippe dansa et Manu rêva. Manu Reva d'un monde à l'image de votre musique, paisible et réconfortant. Merci pour ces 50 années et pour toutes les suivantes. Alain Chamfort.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Alain Chamfort, venu parler de son dernier album Le Désordre des Choses. Il sera en concert à Paris le 19 mars. Il y a une tournée jeudi 14 mars à Gacé, le 19 mars à Paris, 23 mars Nantes, Jouy-le-Moutier, Sérignan, Brest, Saint-Mandé, Gonfreville-l'Orcher, Bruxelles, Drusenheim, Chambéry, le 13 juillet Francofolie de La Rochelle, le 1er septembre à Agen. Christine Béroux a prévu d'aller voir tous les concerts.
Oui. Je suis en train de réserver mes places.
Ne bougez pas, on revient.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël, Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorca et notre invité Alain Chamfort. Alors vous n'aimez pas trop qu'on vous surnomme le dandy de la pop. Vous dites le terme dandy évoque une personne qui fait les choses avec un peu de cynisme. Je ne pense pas que ce soit mon cas. Et je suis difficile à cerner parce que je ne me fais pas remarquer. Je n'arrive pas avec des slogans, des trucs très francs. Je suis en nuance, en demi-teinte.
Oui, c'est-à-dire que quand je vois souvent des critiques, enfin des critiques ou des gentillesses, où on fait, il y a deux, trois termes comme ça qui reviennent, c'est l'élégance et le dandy. Voilà, moi, je trouve ça c'est gentil, mais en même temps, j'ai l'impression de faire des chansons qui méritent mieux que ça. Donc, si vous voulez, je trouve que...
C'est un peu réducteur.
Voilà, je trouve ça un peu réducteur et je trouve que ça cache peut-être autre chose et on n'a peut-être pas envie d'aller écouter et de s'intéresser vraiment, véritablement à quelqu'un quand on l'annonce uniquement comme un dandy ou comme quelqu'un un peu comme ça distant ou un peu cynique. Voilà, et je ne suis pas du tout comme ça. Donc, voilà.
Christine Béroux a des questions à vous poser, Alain Chamfort. C'est son moment.
Pas gagné.
Oui, oui, oui.
On va peut-être vous laisser, non ?
Non, je vais vous faire passer un moment ludique.
Alors,
en vous posant des questions.
Je sens qu'il a hâte.
Non, mais c'est des questions à choix multiples. Les réponses sont uniquement des titres de vos chansons. Alors, vous pouvez développer, répondre par un autre titre, parler d'autre chose, me demander mon numéro de portable, me proposer d'aller boire un café. C'est comme vous voulez. C'est votre quiz. Alors,
on l'a jamais vu comme ça,
elle
sérieux.
Est incroyable.
On lui dit tout de suite qu'elle est mariée avec un enfant ou pas ?
Non, mais... Oh, un enfant qui ne dort pas la nuit à un chauffeur. Oui,
non, mais ça ne l'intéresse pas. Et un enfant
elle
qui
mange du quinoa.
Oui, mais pourquoi vous me dévalorisez comme ça ?
Tu vois, dans deux secondes, elle va me dire que ça
c'est. C'est la copine qui te savonne la planche, tu sais, en boîte de nuit.
Exactement, ouais. C'est exactement ça.
Mais moi, c'est que je l'ai fait une fois, il y avait.
Tu permets ?
Non, parce que. Mais non,
il y avait une fête chez moi,
ouais.
Et il y a une fille que je connaissais, et un mec commence à la draguer, et je sentais que ça montait entre eux, tu vois.
Ouais.
Mais elle avait des gosses et tout, et je lui ai dit au mec, je lui ai dit, mais elle t'a dit, et ça a tout arrêté.
Ah, bah c'est très bien, c'est normal. Et donc,
mais non, parce que moi je suis pour. Et une autre fois.
Après, non, mais attends, moi je suis d'accord, avec toi.
Une autre fois, j'étais en tournée, il y a très longtemps, et dans un petit hôtel, et il y avait mon régisseur, le truc qui n'arrive jamais, mon régisseur, la chambre à côté, et j'entends une nana qui sonne à sa porte, une anglaise, qui commence à le brancher, le truc de rêve pour un mec, tu vois. Surtout qu'il n'était pas top, le pauvre. Et donc la nana, elle commence à parler. Et moi, je suis hyper emmerdée, je connais la femme, il vient d'avoir un enfant et tout. Donc je me suis levée, j'ai toqué à la porte, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, mais je te préviens, j'entends tout.
Oh non,
et du coup, il a rien fait. Et après, cet abruti, il l'a raconté à sa femme qui m'a appelée pour m'en remercier.
Ah bah quand même. Non, mais ceci dit, pour la fête, je te comprends, parce que moi, chaque fois, je fais une fête chez moi, les gens se mettent en couche, ils se draguent. Moi, je suis tout seul et les gens trouvent l'amour sous mon toit. Il faut arrêter ça tout de suite.
Quelqu'un d'autre veut intervenir avant ma chronique ou... Est-ce que quelqu'un du public ? Est-ce que quelqu'un en régie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui veut venir
Allez, non, continue.
En plus, je sens bien qu'Alain Chamfort rien. Bah oui, mais je vois. Alors, mais vous vous rappelez de la thématique de mon quiz ? Ce sont des titres de vos chansons qui vont servir
de
réponse.
J'ai.
Alors, que vous êtes-vous dit en commençant cette émission ? Fillon, je laisse couler, souris puisque c'est pas grave.
Ah, je laisse couler.
Vous pensez sincèrement que la danse c'est naturel, le diable est une blonde ou tout est pop ?
Vous pouvez répéter votre
ce sont bien des chansons de vous.
Oui, oui, absolument. Je pense les trois.
Mais... Bah, j'espère bien. La danse c'est naturel.
Oui.
Le diable est une blonde.
Oui.
Ou tout est pop.
Bah, tout l'ensemble.
Vous parce que ce sont vos chansons. Voilà. Donc forcément, d'accord. Que voudriez-vous demander à votre public ? Quand vas-tu te décider à me décevoir ? Qu'est-ce que t'as fait de mes idées noires ? Ou Let me try it again.
Genre. Ah. Qu'est-ce que t'as fait de mes idées noires?
Quand vous draguez, vous vous présentez comme un sorcier, l'homme qui te veut du bien ou l'infidèle?
L'homme qui te veut du bien.
Où voudriez-vous partir après cette émission? Cap aux Antilles, Tombouctou, Gare de l'Est ou à quelques heures de Nancy?
Chez moi.
C'est dommage parce qu'elle habite à quelques heures de Nancy.
Alors attendez, parce qu'on est à la moitié du quiz, je fais un point. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous amusez comment?
Moi je suis à 8. Christine, tu vas être très déçue, ne pose pas cette question.
D'accord, alors, si vous n'aviez pas été chanteur, vous auriez aimé être chasseur d'ivoire, disque jockey, tennisman ou pin-up?
Tennisman.
J'avais peur que vous répondiez chasseur d'ivoire parce que c'est pas très vegan, mais bon. Que répondez-vous à une femme, à une fan qui vous dit qu'elle vous aime passionnément? Déchaîne-moi, personne n'aime personne ou ce n'est que moi?
Ce n'est que moi.
Arrêtez, je crois qu'il répond n'importe quoi. Bien, vos enfants.
Quel est votre plat préféré? L'omelette.
Vos enfants, vous leur devez les micro-sillons, une suite heureuse ou l'amour sans plaie?
Une suite heureuse.
Que vous a apporté cette émission? Le vide au cœur, les paroles dans le vide ou la fièvre dans le sang?
Les paroles dans le vide.
Sarah, c'est ton
Et vous applaudissez, d'accord. Alors, dernière question, comment qualifieriez-vous Anne Romanoff? Démodée, laide, jolie laide, la femme de ma vie?
Oh, la femme de ma vie.
Tu vois, c'est Anne qui a reparti avec
vous.
Lui.
Ah oui, moi je suis la bonne copine.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Chanfort, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire. Alors, elle a été démarrée lundi par Jean Tellet. À vous de la poursuivre aujourd'hui avec un mot pioché au hasard.
Désordre. Il va y avoir deux architectes qui regardent une pyramide et qui disent la forme même des pyramides prouve que depuis l'Antiquité, les ouvriers ont tendance à en faire de moins en moins. Qu'en penses-tu, Raoul? Alors, un des deux architectes dit à l'autre, il y a longtemps que je n'ai pas vu ma grand-mère. J'ai envie d'aller faire un tour chez elle, donc il appelle un Uber. Et puis le type, il arrive, c'était au début des Uber, il avait sa cravate et tout, il ouvre la porte et tout ça, il y a très longtemps. Ils font le voyage ensemble, et au bout de 10 minutes, le type se retourne et il dit, quel désordre à Paris, hein.
Merci Alain Chanfort d'être passé nous voir. On rappelle votre dernier album, Le Désordre des Choses. Un concert à la Cigale à Paris le 19 mars et une tournée dans toute la France qui serait notamment le 13 juillet au Francofolie à La Rochelle et le 1er septembre à Agen. Merci beaucoup Alain Chanfort. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.